Bonsoir à tous. Israël pourrait intensifier son opération dans toute la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense israélien. Et ce, s'il n'y a pas d'avancée sur la libération des otages détenus par le Hamas. Il a également évoqué qu'à ce sujet, l'État hébreu serait prêt à des compromis. Israël a intensifié aujourd'hui ses bombardements sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui annoncé en fin de journée qu'une délégation avait été envoyée au Caire, où se tiennent des pourparlers entre le Hamas et des pays médiateurs concernant un cessez-le-feu. Également, le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé que depuis le début du conflit, un demi-million de tonnes d'aide humanitaire est arrivée à Gaza. Emmanuel Macron, lui, sera demain à Marseille, le président de la République, qui se rendra dans la cité phocéenne pour accueillir la flamme olympique en France. Il assistera à la cérémonie d'accueil sur le Vieux-Port en compagnie de ministres. Le BLM qui la transporte depuis la Grèce est au large de nos côtes et le 3 mai finira ses 12 jours de voyage demain avec une grande parade en mer. 150 000 personnes sont attendues pour y assister. Dans l'actualité également, un devoir de visite pour les pères absents. C'est ce qu'envisage Emmanuel Macron. Le président de la République a accordé un entretien au magazine Elle. Il estime que les deux parents doivent exercer leur responsabilité à l'égard de leur enfant. Une proposition visant notamment les familles monoparentales où 85% des enfants sont élevés par des femmes. Et puis elle a donné son feu vert aujourd'hui à la mise en service de l'EPR de Flamanville, l'autorité de sûreté du nucléaire. Une étape clé pour le lancement de la production d'électricité de ce réacteur nucléaire nouvelle génération. Avec 12 ans de retard, la production devrait être lancée au cours de cet été. Avant cela, EDF doit lancer une phase d'essai durant les prochains mois. Et puis c'est une annonce attendue par tous les amateurs de jeux vidéo. Après des mois de rumeurs, Nintendo a évoqué aujourd'hui sur le réseau social X une annonce à venir concernant la succession de la Switch, la console qui sera dévoilée au plus tard d'ici mars 2025. Bonne soirée à tous.
Radio Orient.
إذاعة الشرق.
Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
Pluriel avec François Asselineau, ancien candidat à l'élection présidentielle, tête de liste de l'UPR aux élections européennes. Bonjour.
Bonjour, Loïc Barrière, et merci de m'inviter.
Alors François Asselineau, vous êtes, on le sait, partisan du Frexit. Quel est pour vous l'enjeu de ces élections européennes?
L'enjeu, c'est de multiplier encore notre score par 3 ou 4. En 2014, nous avions eu 0,4% des suffrages. En 2019, nous avions eu 1,2, on avait multiplié par 3. Et là, nous avons de solides raisons de penser qu'on va multiplier notre score par 3, 4, 5, voire davantage. Pourquoi ça? Parce que on voit l'envol du nombre de nos consultations sur Internet, ou la chaîne UPR TV que je dirige, désormais bientôt 100 millions de vues cumulées. Donc c'est la chaîne la plus consultée de tous les partis politiques français. Et nous constatons également une envolée de nos abonnés. Et nous constatons aussi que tous les événements, en fait, confirment les analyses que je fais depuis des années. Ça veut donc dire que si nous dépassons 3%, nous serons remboursés de nos frais de campagne, ce qui est très très important pour nous, et ça marquera déjà une forte progression. Et si nous dépassons 5%, ce qui est notre objectif, eh bien nous aurons des députés, ça commencera tout de suite par 5 députés. Alors il y a des gens qui peuvent se poser la question, pourquoi, si on veut sortir de l'Union européenne, est-ce que l'on concourt aux élections européennes? C'est normal, un parti politique est fait pour se présenter aux élections. Les indépendantistes corses se présentent aux élections régionales en Corse pour essayer d'avoir des postes. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé. Donc nous, ce que l'on veut, si nous avons des députés au Parlement européen, eh bien ils feront un peu ce qu'a fait Nigel Farage, c'est-à-dire que lorsqu'il était du parti UKIP pour obtenir le Brexit, il s'était fait connaître et il avait popularisé l'idée du Brexit, justement parce qu'il était au Parlement européen avec un certain nombre d'autres députés et qu'il intervenait avec des interventions qui ont marqué les esprits et qui a fait connaître et populariser cette idée non seulement en Union européenne mais aussi au Royaume-Uni. Parce que notre objectif essentiel, c'est d'ouvrir le débat en France sur le Frexit. Or ce débat est quasiment interdit dans le thème.
François Asselineau, quel regard portez-vous justement sur le Brexit, puisque aujourd'hui, certains Britanniques regrettent d'avoir quitté l'Union européenne?
Oui, alors ça, c'est ce qu'on raconte dans les médias du système français. On invoque un sondage qui est publié régulièrement par le journal Le Guardian, qui était un des journaux principaux anti-Brexit. Mais on ne regarde pas ça en fonction des sondages, il faut regarder ça en fonction des données macroéconomiques. Or, je ne vais pas dire que le Royaume-Uni se porte à merveille, mais sur toutes les données macroéconomiques, il se porte singulièrement mieux que la France. Le taux de chômage est moitié moindre, le taux d'inflation est comparable, le déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements est très inférieur, l'endettement public est inférieur nettement à l'endettement français qui a explosé, comme vous le savez, au cours des dernières années. Le taux de croissance est supérieur à celui de la France. Et puis, il y a deux éléments vraiment importants. On avait dit que le Royaume-Uni, s'il sortait de l'Union européenne avec le Brexit, ben, se séparerait du monde, s'isolerait, etc. C'est le contraire qui est vrai. On vient de voir que le Royaume-Uni vient de se hisser à la 4e place mondiale des exportateurs de biens et de services, et donc vient de dépasser la France. Et deuxièmement, s'agissant du niveau de vie, le SMIC en 2016, c'est-à-dire avant le Brexit, était 15% inférieur au SMIC français au Royaume-Uni. Il est désormais 10% supérieur, de telle sorte que le niveau de vie des Britanniques a augmenté, d'autant plus d'ailleurs qu'il n'y a que 5% des Britanniques qui sont au SMIC, contre 17% des Français. Si d'ailleurs il y avait un tel remords des Britanniques, qu'on l'explique, pour être sortis de l'Union européenne, ne doutez pas que l'oligarchie britannique aurait fait un nouveau référendum, or ça n'est pas le cas.
François Asselineau, vous connaissez bien l'Asie. Raphaël Glucksmann appelle le président Macron à être ferme face à la Chine, notamment sur la question des Ouïghours. Est-ce que vous souscrivez à cet appel ?
Non, je ne souscris pas à cet appel parce que ça participe toujours et avant tout d'un narratif qui consiste à ce qu'on commande, on a du droit international à géométrie variable. Voilà. Je ne dis pas que la situation des Ouïghours est nécessairement extraordinaire en Chine. Et ce que je dis, c'est que les propos qui sont apportés sur l'existence d'un génocide des Ouïghours, ce sont des sources américaines qui décrivent cela, mais des gens qui connaissent très bien le Xinjiang ne confirment pas du tout cette affaire. Ce qui est certain, c'est que M. Glucksmann est un agent très proche des intérêts américains. Il a été d'ailleurs pendant 4 ans conseiller de Saakashvili, le président de Géorgie, qui était un agent de la CIA avéré. Et vous noterez que M. Glucksmann, qui d'ailleurs bénéficie d'une couverture médiatique insensée en France, je rappelle qu'en 2019, nous avions fait 1,2% des suffrages, lui en avait fait 6. C'est-à-dire que nous avions fait 20% de ses voix. Si j'avais 20% du temps de parole accordé à M. Glucksmann, nous serions extrêmement heureux. Et M. Glucksmann, toutes ses interventions vont dans le sens des intérêts géopolitiques des États-Unis. D'ailleurs, Mme Ayer avait justement dit que, en fait, 90% des votes au Parlement étaient identiques entre M. Glucksmann et Mme Ayer. Donc c'est vraiment un peu le même type de propagande. Franchement, je voudrais revenir un tout petit instant sur les Ouïghours. Je signale quand même qu'il y a 9 pays du monde arabo-musulman, notamment l'Arabie Saoudite et l'Algérie, qui ont soutenu officiellement le gouvernement de Pékin dans sa gestion au Xinjiang. Ce qui prouve qu'en fait, Monsieur Glucksmann, par exemple, qui est d'une discrétion de violette sur les horreurs qui se passent à Gaza, et en revanche, là, il est très très ferme sur ce qui se passe au Xinjiang. En fait, il épouse les intérêts géopolitiques des États-Unis.
François Asselineau, comment réagissez-vous aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui confirme ne pas exclure l'envoi de forces en Ukraine ?
Écoutez, je pense que M. Macron est complètement coupé des réalités, qu'il verse dans la provocation. D'abord, tout ce qu'il fait est en fait inconstitutionnel. D'une part, parce qu'il n'a pas de mandat du peuple pour faire ça. D'autre part, ça fait belle lurette qu'en vertu de l'article 35 de la Constitution, il aurait dû saisir le Parlement et demander l'autorisation de faire ce qu'il fait. On apprend ces jours-ci qu'il y a d'ailleurs des soldats de la Légion étrangère qui sont d'ores et déjà en Ukraine. Donc en fait, M. Macron est en train de nous engager de plus en plus dans une guerre dont je rappelle qu'elle n'est pas la nôtre. Encore une fois, il s'agit non pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, il s'agit d'une guerre de l'OTAN lancée contre la Russie. Et en fait, il s'agit au-delà de tout ça du choix de société du XXIe siècle entre d'un côté le camp occidental mené par les États-Unis qui veulent imposer une espèce de vision mondialiste du monde où progressivement les États d'ailleurs s'effaceraient derrière des très grands féodaux, si je vous dis, une espèce de retour au Moyen-Âge avec des très grandes sociétés financières. Vous savez que BlackRock ou Vanguard ont, paraît-il, racheté près de la moitié déjà des terres de l'Ukraine. Vous savez aussi que Bill Gates et Melinda Gates sont interviennent massivement à l'OMS. Donc il y a un véritable risque de privatisation du monde. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle maintenant le Sud global, avec la Russie, la Chine, l'Inde, les BRICS, une grande partie du monde arabo-musulman, d'Amérique latine, qui refuse cette domination du monde occidental, qui apparaît d'ailleurs à beaucoup d'égards comme un monde un peu en déclin, et en déclin civilisationnel, avec notamment toutes les valeurs woke qui sont développées et qui sont rejetées par une très grande partie de la seconde partie du monde que je développais. Voilà comment je vois les choses. Alors Monsieur Macron, là-dedans, il intervient militairement. En plus de ça, tout le monde sait que notre armée n'est pas capable de soutenir une guerre de grande magnitude face à la Russie. On a une armée qui est très très compétente sur des petites opérations à l'étranger, mais face à un conflit de haute intensité face à la Russie, c'est impossible. On n'a ni les munitions, ni les hommes, ni l'entraînement nécessaire. Et donc, en fait, je pense que Vladimir Poutine considère ça comme une espèce de rodomontade. Monsieur Macron fait ça pour se donner un genre, mais tout ça est très grave. Heureusement que nous avons en face de nous des dirigeants qui ont des nerfs solides, parce que on joue quand même avec le feu, avec la première puissance nucléaire mondiale.
Est-ce que vous redoutez des attaques russes, des opérations de déstabilisation sur le continent européen?
Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, en tout cas, c'est que d'un seul coup, venant des services secrets allemands, toute la presse occidentale anticipe des attentats qui seraient lancés par la Russie. Franchement, je ne vois pas très bien l'intérêt que la Russie aurait à fomenter des attentats, dans la mesure où, sur le terrain, elle est en train de grignoter et de gagner sa guerre d'usure contre l'OTAN. En revanche, moi, je me rappelle qu'il y a beaucoup d'attentats qui ont été faits par des pays de l'OTAN, je pense notamment au réseau Gladio, en Italie, il y a des années sombres, qui ont été, en fait, fomentés par des pays de l'OTAN sous faux drapeau. Donc, je ne voudrais pas que l'OTAN, les pays de l'OTAN qui sentent, en fait, que la défaite est quasiment inéluctable face à la Russie, eh bien, trouve des prétextes pour lancer une troisième guerre mondiale en excipant comme ça d'attaques terroristes dont nul ne saurait finalement quel est l'auteur, mais dont on présenterait immédiatement aux peuples occidentaux que c'est la Russie qui en serait l'auteur. Moi, je pense que dans toute cette histoire, le rôle de la France traditionnelle aurait dû être depuis belle lurette d'appeler au cessez-le-feu, de faire respecter les accords de Minsk et puis de mettre tout le monde autour d'une table. Bon, tout le monde sait bien que la Russie jamais ne lâchera la Crimée, qui d'ailleurs n'a jamais appartenu à la partie nord-est de l'Ukraine peuplée de polono-lituaniens, de même que le Donbass. Donc, et quant à ceux qui décrivent la Russie comme Poutine, comme un nouvel Hitler qui voudrait conquérir toute l'Europe, je suis absolument convaincu du contraire. L'intérêt géopolitique de la Russie n'est certainement pas de conquérir toute l'Europe. Elle est hic et nunc de protéger les populations russes du Donbass et de Crimée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas du tout d'attentat contre les forces russes qui sont présentes dans ces régions. Au contraire, c'est soutenu par la population. Et l'intérêt de la Russie, c'est de transformer l'Ukraine restante en un pays du style la Suisse, qui n'appartiendrait ni à l'Union européenne, ni à l'OTAN, et qui serait une espèce de tampon de sécurité. Voilà.
François Asselineau, auriez-vous voté le pacte asile et immigration, et que proposez-vous pour améliorer la gestion des flux migratoires dans l'Union européenne?
Je suis très embarrassé par ces questions d'immigration, parce que on focalise l'attention des Français sur l'immigration clandestine ou sur les demandes d'asile. Or, il se trouve que d'après tous les sondages, il y a à peu près, en gros, 75% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration. Et d'ailleurs, parmi les Français sondés, il y a aussi des Français d'origine immigrée qui sont souvent les premiers à trouver que maintenant il y a trop d'immigrés en France. Donc si on est démocrate, eh bien il faut arrêter les flux migratoires, ne serait-ce que pour permettre à ceux qui sont venus, progressivement, de s'installer, de faire souche et de s'insérer, puis de s'assimiler à la société française. Or, quand on se focalise sur l'affaire des immigrés clandestins ou des demandeurs d'asile, on passe en fait à côté de l'essentiel. Vous savez qu'en 2022, il y a eu 3 850 000 migrants nouveaux qui sont venus s'installer en Union européenne. Et sur ces 3 850 000, il y en a eu 3 500 000, c'est-à-dire 90%, qui sont venus s'installer légalement parce qu'ils avaient des titres de séjour qui ont été émis légalement par un des 27 pays membres de l'Union européenne. D'ailleurs, la politique officielle de l'Union européenne, conformément au pacte de Marrakech de 2018, c'est justement d'avoir environ 4 millions de nouveaux migrants par an, c'est-à-dire quand même une France tous les 16 ou 17 ans qui viendrait en plus. Alors dans ces conditions, on se focalise sur la question de l'immigration clandestine, mais on oublie l'essentiel qui sont ces migrations continuelles, qui sont des migrations à la fois de travail et de peuplement. Et la première question que devraient se poser des Européens, c'est est-ce qu'ils sont d'accord? Et pourquoi est-ce qu'on ne relance pas une politique de la natalité? Depuis 20 ans ou 30 ans qu'on parle de ces affaires, on aurait pu avoir une politique de la natalité s'il s'agit d'occuper des emplois.
Sur ce point, vous êtes d'accord avec le Rassemblement national? Vous êtes sur la même ligne?
Non, parce que le Rassemblement national, comme Reconquête, sont des partis qui ont tendance, même s'ils s'en défendent, à taper sur les immigrés, à fustiger les personnes, à dénoncer l'islam, à dénoncer l'islamisation. Donc ils ont des... Alors, c'est particulièrement vrai sur Reconquête, mais c'est aussi vrai au RN. Donc ils fustigent, si j'ose dire, les conséquences. Ils ne s'intéressent pas aux causes. C'est-à-dire que l'un comme l'autre veulent rester dans l'Union européenne. Ils veulent rester dans l'euro, ils veulent rester dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne remédient en rien aux causes des phénomènes qu'ils dénoncent. Nous, ce que l'on veut, c'est tout l'inverse. Moi, je dénonce la politique migratoire de l'Union européenne, la mainmise des États-Unis sur le financement de forces comme les frères musulmans, par exemple, hein, les phénomènes islamistes. Je rappelle que Daesh, au bout du compte, c'est la Russie qui a écrasé Daesh au Moyen-Orient, et ceux qui armaient Daesh, c'était au bout du compte les États-Unis. Donc nous, on dénonce le rôle des États-Unis dans cette histoire. Mais en revanche, ce que nous considérons, c'est qu'une fois sortie de l'Union européenne, la France devrait aider bien davantage les pays d'où émanent les populations migrantes pour favoriser leur développement. Si la France sort de l'Union européenne, elle pourra réorienter les dizaines de milliards d'euros que nous versons en pure perte, par exemple à l'Ukraine, mais aussi aux pays de l'Est, les orienter vers des pays qui sont bien plus chers à nous, à tous les égards, aussi bien l'histoire, la civilisation, la langue, les échanges culturels, les échanges familiaux, etc. Je veux parler des pays du Maghreb et je veux parler des pays de l'Afrique francophone.
François Asselineau, que proposez-vous pour arrêter les bombardements sur la population de Gaza? On a vu qu'une opération a commencé à Rafah. Faut-il sanctionner Israël pour faire pression sur Benjamin Netanyahou?
Alors oui, je pense que cette affaire est un véritable scandale. Je pense, comme vous pensez, vous me parliez tout à l'heure, des propos de M. Raphaël Glucksmann qui s'intéresse aux Ouïghours, mais la situation des Ouïghours est infiniment meilleure que la situation des Gazaouis. Donc ça n'a aucun rapport. Monsieur Glucksmann a une vision, il a une hémiplégie dans ses condamnations. Donc nous considérons que d'une part, le gouvernement de Netanyahou ne représente pas à lui seul tout l'État d'Israël et toute la population israélienne. C'est un gouvernement d'extrême droite avec un ou deux ministres qui sont quasiment des fous furieux, hein, qui envisagent carrément la destruction pure et simple de Gaza et que ce soit remplacé entièrement par le peuple israélien. Tout ça est extrêmement inquiétant. Donc moi, ce que je dis, c'est que la France, malheureusement, a perdu son originalité qu'elle avait eue de Charles de Gaulle. Parce que nous sommes dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne est le supplétif des États-Unis d'Amérique, et ce qui aggrave en plus la situation, c'est que la France ne reconnaît qu'un seul des deux belligérants, c'est-à-dire l'État d'Israël. Donc moi, j'ai déjà dit depuis longtemps que la France devrait premièrement reconnaître l'État palestinien qui a été créé par une déclaration du gouvernement du Parlement palestinien en exil en Algérie, je crois que c'était en 1993. Il est grand temps, il y a plus de 130 pays au monde qui ont reconnu l'État palestinien. La France ne l'a pas fait. Donc la première chose à faire, c'est ça. La deuxième, c'est que sortant de l'Union européenne, retrouvant une diplomatie digne de ce nom, c'est-à-dire qui ne soit pas assujettie aux États-Unis d'Amérique, nous retrouvions une liberté de ton et de parole pour imposer en fait qu'il y ait la solution pour l'instant qui est celle proposée par les Nations Unies depuis très longtemps, c'est-à-dire une solution à deux États. Et à partir du moment où nous aurions reconnu l'État palestinien, à partir du moment où nous imposerions, nous mettrions tout le poids de la France dans la balance et si possible de ses amitiés, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, eh bien nous proposerions qu'il y ait un juste partage de ces terres, éventuellement avec une frontière qui serait garantie internationalement, avec une zone tampon peuplée de casques bleus entre les deux parties, entre l'État palestinien d'une part, dont la capitale naturelle serait Jérusalem-Est, et un État juif d'autre part, dont la capitale naturelle serait, pour le coup, Jérusalem. Je trouve de ce point de vue-là que le combat qui consiste à dire on ne va pas reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël me paraît un combat un petit peu saugrenu. Tout le monde sait que Jérusalem est le centre du monde juif, mais je pense que cette ville devrait être partagée en deux, conformément aux résolutions 242 de 1968 et 337 et 338 de 1973. En vrai, ce serait retiré des territoires occupés et puis un État palestinien, le tout étant, encore une fois, séparé par une frontière peuplée de casques bleus et avec une supervision internationale, par exemple, des 5 grands de puissance au Conseil de sécurité.
Merci François Asselineau. Je rappelle que vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle et tête de liste de l'UPR aux élections européennes. Merci.
Merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Douai DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا هو الطريق هو خدنا وروحنا معاك هو الطريق هو خدنا وروحنا معاك ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه ماهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا يا ستاير النسيان داري على الأحزان يا ستاير النسيان داري على الأحزان خلي النهار ديبان عايزين نعيش في أمان خلي النهار ديبان عايزين نعيش في أمان ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه ماهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم نصيب قولي قولي لي يما عدو ولا حبيب قولي قولي لي يما كل شيء نصيب قولي قولي لي يما عدو ولا حبيب وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم
اقعد انا وياك مطرح مش مسكون مش مطرح برات الكون ما في علينا عيون بدي اقعد انا وياك مطرح مش مسكون مش مطرح برات الكون ما في علينا عيون اكل من ايدي واسهر بعيني أكل من إيدي أسهر بعيني إذا حبك مش هيك ريت والعشق ما يقول بدي أسرح فيك وانت تسرح فيك عايدي غفيك وعيش الرومانسي بدي اسرح فيك وانت تسرح فيك عايدي غفيك وعيش الرومانسي اكل من ايديك واسهر بعيديك واذا حبك مش هيك ريت العشق ما أحبك بجنون يا حب الحقيقي بدي اياك تكون حبيبي وصديقي أحبك بجنون يا حب الحقيقي أكل من إيدي وأسهر بعيني وإذا حبك مش هيك ريت العشق بدي اقعد انا وياك مطرح مش مسكون شي مطرح برات الجو ما في علينا عيون بدي اقعد انا وياك مطرح مش مسكون شي مطرح برات الجو ما في علينا عيون اكل من ايديك واسهر بعينيك اكل من ايديك واسهر بعينيك واذا حبك مش هيك ريت العشق ما يكون
Hello. تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس
راديو أوريان.
في الكلام كلامك يا عيني بتعلمني الغرام راحتك يا سيدي خد راحتك في الكلام كلامك يا عيني بتعلمني الغرام قل لي في بلد والفين سافر خيالك حبيبي قول يا حبيبي اتكلم واحد يا سيدي خد راحتك في الكلام كلامك يا عيني بيعلمني الغرام جنبي بيقرب لقلبي ويشوقني ليك بيحرك مشاعري وينور لي قمري ليالي عينيك صوتك وانت جنبي بيقرب لقلبي ويشوقني ليك بيحرك مشاعري وينور لي قمري ليالي عينيك والناس بيشوفوني وياك يحسدوني ويزيد الملام تحلوي الأغاني تحلوي المعاني يحلوي الكلام قل لي ايه في بلد والفين سافر خيالك قل لي ايه في بلد والفين سافر خيالك قل لي يا حبيبي قول يا حبيبي اتكلم واحد يا سيدي خد راحتك في الكلام يعيدها الزمان عنوان الحكاية حيكون البداية لسنين الأمان لسنين الأمان حكايتك معايا معايا حيقولها غناية ويعيدها الزمان يعيدها الزمان عنوان الحكاية حيكون البداية لسنين الأمان لسنين الأمان والناس بيشوفوني وياك يحسدوني ويزيد الملام تحلو الأغاني تحلو المعاني يحلو الكلام قل لي في بلد والفين سافر خيالك قول قول لي ايه في بالك قول خيالك قول لي يا حبيبي قول قول يا حبيبي اتكلم واحد
تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس راديو أوريان.
غير زيادة وبكي ودموعه إلي أسبوعه أنا عمراضي وما رأيت جمعه وما نشف دمعه وأنا على جبر ركوعه
بعيني ومبين برعشة قلبي كلمات تلمس ايدي حضرت جنابك حضرت جنابك معزوم لعندي لكتب كتابك بدي غلغل واسكن بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك بدي ابقى انا عطر تيابك انت محبوبي انت محبوبي عاسمك محسوب ومكتوبي انت الروح اللي سكنت فيي وانت نبض قلبه لقلوبي بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك بدي ابقى انا عطر تيابك أحلاقاتي وبكرة يا حبي الأحلاقاتي أنت محبوبي أنت محبوبي عاسمك محسوب ومكتوبي أنت الروح اللي سكنت فيي وأنت نبض قلبه لقلوبي حضرت جنابك حضرت جنابك معزوم لعندي لكتب كتابك بدي غلغل واسكن بقلبك عطرت يا باك بدي ابقى انا عطرت يا باك
نشرة الأخبار من إذاعة الشرق مع رويدة كرم وأسامة الشاتي.